Est-ce la main de Dieu, est-ce la main du diable qui a tissé le ciel de ce beau matin-là, lui plantant dans le cœur un morceau de soleil qui se brise sur l'eau en mille éclats vermeils? Est-ce la main de Dieu, est-ce la main du diable qui a mis sur la mer cet étrange voilier qui, pareil au serpent, semble se déplier noir et blanc sur l'eau bleue que le vent fait danser? Est-ce Dieu, est-ce diable ou les deux à la fois qui un jour s'unissent en fait ce matin-là? Est-ce l'un, est-ce l'autre? Vraiment, je ne sais pas. Mais pour tant de beauté, mère, si et chapeau bas. Est-ce la main de Dieu, est-ce la main de diable qui a mis cette rose au jardin que voilà? Pour quel ardent amour, pour quelle noble dame, la rose de velours au jardin que voilà? Et ses prunes éclatées, et tous ses lilas blancs, et ses groseilles rouges, et ses rires d'enfant, et Christine si belle sous ses jupons blancs, avec au beau milieu l'éclat de ses 20 ans. Est-ce Dieu, est-ce diable, ou les deux à la fois, qui un jour s'unissant fait ce printemps-là? Est-ce l'un, est-ce l'autre? Vraiment, je ne sais pas, mais pour tant de beauté, merci et chapeau bas. Le voilier qui s'enfuit, la rose que voilà, et ses fleurs et ses fruits, et nos larmes de joie, qui a pu nous offrir toutes ces beautés-là, cueillons-les sans rien dire, vaste, c'est pour toi et moi. Est-ce la main de Dieu et celle du malin qui un jour s'unissant croisent nos chemins? Est-ce l'un, est-ce l'autre? Vraiment, je ne sais pas. Mais pour cet amour-là, mère, si et chapeau bas. Mais pour toi et pour moi, mère, si et chapeau bas.
De Monique à Barbara, qu'il fut longue la route. Nous vous proposons dans cet essai radiophonique une vision subjective, c'est-à-dire de vérité, de l'histoire de Monique Cerf, alias Barbara. Il y aura beaucoup de faits objectifs et aussi beaucoup de tentatives de compréhension à partir de ces faits, c'est-à-dire beaucoup d'interprétations personnelles. Dans cette entreprise de vouloir comprendre quelque chose à Barbara, à tort ou à raison, à partir des éléments qu'elle nous a laissés et de ceux que nous ont laissés ceux qui l'ont côtoyée, nous avons voulu comprendre quelque chose à ce que fut l'histoire et la vie de cette femme, sans souci hagiographique ni démystificateur, mais avec un certain acharnement à vouloir aller au-delà des clichés qui brouillent son image, elle-même n'étant pas toujours la dernière à installer ses écrans de fumée. Elle est aujourd'hui partie. Certaines réserves dues à sa vie privée ne sont plus de mise. Le respect lui est dû, mais il passe par la vérité, qu'elle soit flatteuse ou non, socialement valorisante ou non. Barbara, comme nous tous, avait ses contradictions, ses bassesses et ses grandeurs. Partons donc à la découverte d'un être humain qui était aussi une grande artiste. C'est aussi cela, savoir dissocier la part de l'humain face à la notoriété mystificatrice. Cette mystification d'elle-même, le public la lui a un peu fabriquée, mais elle en a aussi entièrement joué le jeu. Nous allons donc essayer d'y voir plus clair. Cet essai a été réalisé à partir d'une multitude de documents sonores et écrits, entre autres quelques-uns des multiples livres qui lui ont été consacrés, et bien sûr ses mémoires interrompues. Nous remercions également Jeanne qui a bien voulu dire les citations de Barbara, ainsi que les différentes sources de documents sonores de Barbara, essentiellement des entretiens radiophoniques ou autres.
Qui est Barbara?
Une femme qui chante.
Néo.
Ah, Néo, née à Paris.
À Paris. Ayant vécu à Paris.
Oui.
Ayant des parents qui faisaient quoi? On n'en parle pas.
Non.
Donc c'est quand même le mystère Barbara.
C'est pas un mystère.
C'est Barbara qui ne vient de nulle part.
Non, c'est pas un mystère. C'est que quand on a une famille, c'est pas, je sais pas, faut peut-être préserver aussi. C'est peut-être une façon de préserver. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire de mettre en cause des gens? C'est pas parce qu'on a choisi ce métier, qu'on est fou de ce métier, que c'est toute notre vie, qu'il faut bouleverser la vie de ceux qui sont les nôtres. Et je crois qu'il faut préserver.
Et qui sont vivants?
Non, mais ça fait rien, justement. Ça serait trop facile.
Alors on se tait?
On se tait.
Jacques Cerf, son père, naît en 1904 à Paris. Il est juif d'origine alsacienne. Esther Brodsky, sa mère, enfant juive, naît en 1905 à Tiraspol, en Moldavie, rattachée à l'Ukraine. Cette région connaît alors les pogroms contre les Juifs. Ses parents fuient le pays avec leurs enfants, dont Esther, pour la France en 1905. Jacques Cerf et Esther Brodsky sont mariés en 1927 sans que l'on sache trop comment ils se sont rencontrés. Jean Cerf, frère aîné de Monique, naît en 1928. Le 9 juin 1930, naissance de Monique Cerf à 16h. La famille habite au Batignolles, 6 rue Brochamp, dans le Paris 17e. Très vite, la famille déménage ensuite rue Nollet, toujours dans le quartier des Batignolles, une rue qui débouche sur la place Clichy et l'Européen. À cette époque, Jacques Cerf, son père, est représentant de commerce en fourrure. Esther Cerf, sa mère, travaille à la préfecture. En 1932, Monique est décrite comme une petite fille potelée aux mèches blondes.
Tous les passants s'en sont allés plus rapides que la mémoire, écrire un petit bout d'histoire, les uns debout, d'autres couchés. Certains sont entrés dans l'histoire sans avoir eu le temps d'y croire, pas même le temps d'y songer. Tous les passants s'en sont allés, gens de Flandre et gens de Navarre, qui voulaient la mer à boire, la mer je crois les a gardés. Et petite Jeanne des Amériques, devenue Jeanne le Magnifique, la gloire ne l'a pas épargnée. Tous les passants s'en sont allés, ceux qui buvaient de la fontaine ont maintenant leur cave pleine de vins aux noms ensoleillés. Ceux qui croyaient à la colère, ceux qui voulaient gagner des guerres, la guerre a dû les décimer. Tous les passants s'en sont allés, mais toi plus têtu que la pierre, tu n'as pas quitté la rivière ni la colline aux fleurs de mer. Tu gardes le feu et la table, la rose et le sirop d'érable comme autant de très lourds secrets. Si les passants s'en revenaient au lieu de leurs 20 ans superbes sur lesquels a repoussé l'herbe, je ne sais si le sang m'étonnerait. Moi je vois couler l'eau profonde sans m'y pencher une seconde et j'ai peur d'y voir ce que j'étais. Tous les passants s'en sont allés, Jean de Flandre et Jean de Navarre, et petite Jeanne des Amériques, tous les passants s'en sont allés.
En 1937, les Cerfs quittent Paris pour Marseille, poursuivis par les huissiers, sans que l'on sache l'origine de ces dettes permanentes de la famille, trop petits revenus, dépenses superflues. Monique, elle, se souvenant de cette période, écrit
« J'ai été une petite fille qui s'est construit un monde, comme beaucoup d'enfants, et qui s'y est enfermée. Dans ce monde, j'étais pianiste chantante. Je tambourinais sur une table des musiques que je scandais ou miaulais infatigablement. Mes mains se posaient, s'agitaient au-dessus d'un clavier imaginaire et durant de longues heures, j'étais la plus grande pianiste du monde. »
On l'interrompt dans ses délires pour aller mettre le couvert. Ah, les briseurs de rêves!
Depuis, j'ai conservé cette phobie que l'on puisse briser le rêve, défaire l'instant. Je déteste que l'on surgisse bruyamment dans mes chambres de repli. Je hais ces brusques interruptions, ces portes qui claquent, ces éclats de voix trop forts qui me blessent lorsque je travaille.
Déjà caractérielle, la gamine. Marseille, 1937, 7 ans. Voilà la petite écolière amoureuse d'un grand 13 ans de famille noble. Très beau. Elle vole les 32 figues que le père a ramenées à la maison pour les donner aux garçons et elle n'ira jusqu'au bout, malgré les menaces et punitions. Cabochard de la gamine. 1938, Monique a 8 ans, sa petite sœur Régine, troisième de la fratrie, va naître, et sans doute sous la pression des huissiers qui les ont retrouvés à Marseille, les voici à Roanne.
C'est la pauvreté à Roanne. J'ai connu les « N'ouvrez pas les enfants, vous direz que papa est absent ». Je suis habillée de robes d'adulte que je déteste, retaillée sur mon corps de petite fille. Il y eut aussi les huissiers très matinaux. J'ai même vu un jour disparaître tous nos meubles, sauf le lit de mes parents et, Dieu merci, la grande table sur laquelle j'inventais et pianotais toutes mes musiques. J'étais souvent honteuse. J'ai connu les rues contournées à cause des créanciers. Je hais depuis le mot argent, la tricherie, le mensonge. J'ai le goût maladif de la vérité, de la mienne. J'en ai surtout gardé le souvenir d'avoir eu très froid dans la maison et dans les rues glaciales, sans gants, les doigts bleuis douloureux.
Le fils du grand réseau. Je suis né un soir où on ne m'attendait pas. Ce soir-là, mon père allait en soirée, avec son huit reflets. Quand il me vit, il se mit en colère. Je ne l'ai pas fait exprès, dit ma mère. Mais mon père ne voulut rien entendre. Il fit le grand geste avec les bras, et il s'en alla, avec son chapeau haut de forme, sur sa locomotive haut le pied. Il s'en alla dans le pays où on l'avait prié d'aller. Quand il fut arrivé, il s'assit, avec son haut de forme, et un verre d'eau glacée sur la table, devant lui. Une carafe. Et il parla. Oh les cœurs, mes amis, qu'il dit, et beaucoup d'autres choses aussi. Et tout le monde qui était là, à ce qu'il paraît, l'applaudit. Un peu plus tard, il revint au pays, en passant par d'autres pays. Et dans tous les pays où il passait, il parlait, avec son verre d'eau de forme et son chapeau glacé. Il disait, oh les cœurs, oh les mains, passons la monnaie. Et tous ceux qui ne voulaient pas passer la monnaie, mon père les écrasait avec sa grande locomotive haut le pied. Ce n'était pas un homme comme les autres hommes, mon père. Et quand il revint beaucoup plus tard à la maison, il était devenu encore de plus en plus extrêmement riche et très sournois et très vieux. Mais il avait toujours son huit reflets sur la tête et même il couchait avec. Et quand il se levait, c'était pour repartir vers de nouvelles contrées. Partout où il passait, les cheminées d'usine poussaient et tout le monde était couvert de poussière et de poussière. Tout le monde toussait. Ce n'était pas un homme comme les autres, mon père. Les uns disaient de lui qu'il était directeur d'une grande compagnie de chemin de fer, et d'autres, simplement, ajoutaient qu'il régentait l'Empire des mines et le royaume des charbonniers. D'autres ne disaient rien. Quand il passait, il ramassait des pierres et les gardait dans leurs mains. Mais il n'osait pas les lancer, tellement ils étaient fatigués, fatigués par la poussière, fatigués par le poussier. Et mon père sifflait dans son petit sifflet, et tous s'en allaient sur les rails du chemin de fer. Ils déposaient leurs pierres, et quand ils avaient déposé leurs pierres, ils allaient aller chercher d'autres pierres. Ils les déposaient sur la voie du chemin de fer. Et la voie s'allongeait, et mon père leur payait un petit salaire. Ils restaient là, leur petit salaire dans les mains, fatigués par la poussière, la misère, le poussier. Je me suis fait moi-même, disait mon père. Et il souriait. Joli travail, disait ma mère, et elle pleurait. Moi, je ne disais rien, je n'avais que 5 ans. Je n'ai commencé à parler qu'à 10 ans seulement. Et les jours passaient. Et puis d'un seul coup, tout à coup, arriva la mauvaise saison, les mauvaises affaires. Mon père vendit tous ses chemins de fer et perdit la raison. Et les huissiers emmenèrent toute la maison avec le seau à charbon. Nous partîmes habiter un quartier éloigné, dans une maison meublée, avec des insectes sur le mur qui grimpaient. Mais tous les jours et les jours que le bon Dieu faisait, mon père se regardait dans la glace avec son huit reflets sur la tête. Il comptait les reflets, mais il était si fatigué qu'il n'avait que la faible force de ne compter que jusqu'à 7. Alors il hurlait, indigné. Il en manque un, on m'a volé. Et il s'enfermait dans le buffet sur lequel il avait écrit en travers et à la craie, train spécial, compartiment réservé. Il restait là pendant 2 jours et saluait. Ma mère restait assise sur une chaise et pleurait. Elle est dans la salle d'attente, disait mon père, et il souriait. Un beau jour, il voulut descendre du buffet en marche, mais il descendit à contre-voix et fut écrasé par l'armoire à glace. C'est l'armoire de 21h30, dit mon père, et c'est ma dernière heure en même temps. Funeste erreur d'aiguillage, dit ma mère en pleurant. Toujours les bonnes excuses. Moi, je conclus au sabotage. Absolument, rectifia mon père en mourant. Après avoir refusé de serrer la main au mécanicien en sa qualité de président.
Nos poches retournées. cheminées sont vides, nos souliers sont crevés, et nos enfants livides dansent devant nos buffets. Et pourtant, c'est Noël, Noël qu'il faut fêter. Fêtons, fêtons Noël. Ça se fait chaque année. Oh, et la vie est belle. Oh, et joyeux Noël. Mais v'là la neige qui tombe de tout en haut. Elle a dû se faire mal en tombant de si haut. Courons, courons vers elle, courons, courons avec nos pelles, courons la ramasser, puisque c'est notre métier. Jolie neige nouvelle, toi qu'arrive du ciel, donne-nous des nouvelles, des choses de ce côté. Dis-nous, dis-nous la belle, dis-nous en vérité, quand est-ce donc à Noël, tomberont de là-haut les dindes de Noël avec leurs dindonneaux. Les dindes de Noël avec leurs dindonneaux. Nos cheminées sont vides, nos poches retournées. Nos cheminées sont vides, nos souliers sont crevés, et nos enfants livides dansent devant nos buffets. Et pourtant, c'est Noël, Noël qu'il faut fêter. Fêtons, fêtons Noël. Ça se fait chaque année. Oh, et la vie est belle. Oh, et joyeux Noël.
Le 24 décembre 1938, Noël en famille, la messe de minuit.
Au retour, la grand-mère Granny nous attendait à la cuisine avec une orange, un chocolat chaud fleurant bon la cannelle.
Et des morceaux de sucre candi servis sur une petite soucoupe bleue. Quelle douceur!
Plus tard, au moment des concerts au théâtre des variétés, elle achètera dans une boutique voisine un stock de paires de gants qu'elle offrira à beaucoup de monde.
En 1939, la famille quitte Rouen en déménageant à la Cloche de Bois à bord d'une vieille Oldsmobile vert foncé. Et je me retournais souvent, pensant que nous étions poursuivis. En avais-je alors de la crainte ou du plaisir?
Le 3 septembre 1939, c'est la déclaration de guerre. La famille habite alors au Vésinet. La mère leur dit « Mes enfants, la guerre vient d'éclater, il faut partir. » Le père est mobilisé, la mère part avec la petite Régine, la tante Jeanne Speer part avec Monique et Jean. Elle va s'installer à Poitiers en fin septembre 1939. La grande-tante Jeanne, veuve d'un médecin militaire, a été mannequin chez Poiret au début du siècle. Elle a vécu en Afrique, elle porte bien et est autoritaire et élégante. Un jour, à la sortie de l'école, le père de Monique est là pour 2 heures à passer avec ses enfants.
Jour de joie et de peine. Il est en militaire, il n'est là que pour 2 heures qu'il va passer avec mon frère et moi. Puis il me raccompagne, sanglotante. Je le supplie de rester, en vain. Je le vois encore s'éloigner, se retourner, venir me prendre dans ses bras. Pour me calmer, il sort alors de sa poche 14 sous avec lesquels, le cœur lourd, j'achèterai du zan. Cette relation de père à enfant, je ne la connaîtrai jamais plus.
La fille, pour son plaisir, choisit le matelot. L'eau voulut des navires pour voguer à son eau. L'homme choisit la guerre pour jouer aux soldats. Et parti pour la faire sur l'air, ça ira. Bref,
cherche, chacun possédait ce qu'il avait souhaité. Moi, je voulais un homme, ni trop laid, ni trop beau, qui promènerait l'amour sur les coins de ma peau. Un homme qui au petit matin me prendrait par la main pour m'emmener croquer un rayon de soleil. Moi, je voulais un homme, à chacun sa merveille, et la vie en passant. Un jour me l'amena, puis la fille prit des coups par son beau matelot. La guerre en plein mois d'août nous faucha le soldat. Le navire qui passait juste à ce moment-là, le navire qui passait prit l'eau et puis coula. Bref, on ne sait pourquoi, mais tout se renversa. Moi, je pris en plein cœur un éclat de son rire. Jeta mon bonheur dans la fosse aux souvenirs. Je le vis s'en aller, emportant mon soleil, emportant mes étés. J'avais voulu un homme, j'aurais dû me méfier. Cette garce de vie, un jour me le reprit. Qu'importe si la vie nous donne, mais nous reprend, puisqu'ici, bon, tout n'est que recommencement. La fille, pour son plaisir, reprendra des matelots. On refera des navires pour le ventre de l'eau. Il y aura toujours des guerres pour jouer aux soldats qui partiront la faire sur l'air de Saïra. Eh ben, moi, je prendrai un homme, pas de mal de bassin, un homme, les hommes, j'aime ça, un homme, un homme, un homme.
Toute sa vie, Barbara sucera du sang, et elle en emmènera partout au mépris de sa santé. Début 1940, la mère s'installe à Blois et travaille à la préfecture, décide de reprendre ses enfants. Au printemps, les enfants arrivent à Blois. Mais le 18 juin 40, les Allemands aussi arrivent à Blois, et il faut fuir. Les enfants montent dans un train avec la tante Jeanne en partance pour Châteauroux. Au bout de 200 km, près de Châtillon-sur-Indre, la locomotive repart et laisse les wagons.
Pour tous les enfants présents à bord, le train devient très vite un terrain de jeu. Nous courons le long des couloirs, de wagon en wagon, tout excités. Pour nous calmer, les adultes nous envoient chercher du lait et des œufs dans les fermes avoisinantes. Au cinquième jour, des avions allemands bombardent le train. Il y a des blessés et des morts. Lorsqu'on a 9 ans, la guerre sait aussi parfois traverser l'horreur en jouant. Nous continuons de jouer dans la plaine aux abords du train. Nous y resterons 17 jours.
Finalement, ils arrivent à Préau, dans une école désaffectée par les vacances scolaires, un village tranquille en dehors du tumulte. Jeanne, très vite, loue 2 chambres mansardées dans le centre du village. Monique parle toujours de piano, de spectacle, de musique. Témoignage d'une de ses compagnes de l'époque. Elle est étonnante, cette enfant. Gentille, réservée, mignonne, avec ses cheveux châtains qui lui arrivent aux épaules. Elle s'amuse davantage dans les rues du village que sur les bancs de la communale. L'institutrice nous faisait chanter très souvent, et Monique était toujours la première. Elle se mettait en avant, on l'entendait, en fait, elle chantait sans arrêt. Ils vont rester à Préau jusqu'à fin 1941, donc plus d'un an. Plus tard, Barbara refusera toute rencontre avec les gosses de l'époque.
« Désolée, le passé ne m'intéresse pas. »
Elle se vit comme non préférée de sa tante qui s'occupe surtout du frère qui travaille bien à l'école. Fin 1940, son père est démobilisé et il s'installe à Tarbes et bat le rappel de la famille. Du jour au lendemain, sans prévenir personne, ils quittent tous Préau, direction Tarbes, en zone libre. Ils se retrouvent donc, père, mère, enfant et tante, et louent une grande maison rue des Carmes. Le 4e enfant va naître, c'est Claude, en mars 1942. En attendant, le père joue aux cartes beaucoup. À l'école, toujours pareil, et elle écrira
« Je me sentais cancre face à ce frère premier en tout, premier partout, inintéressante et dépourvue de qualité. Je me sentais souvent bête et humiliée. »
Le jour où tu viendras, le jour où tu viendras, le jour où tu viendras, ne prends pas tes bagages, que m'importe après tout ce qu'il y aurait dedans, je te reconnaîtrai à lire ton visage, il y a tant et tant de temps que je t'attends, tu me tendras les mains, je n'aurai qu'à les prendre, mais console les voix qui pleurent dans ta voix. Je t'apprivoiserai les lumières éteintes, tu n'auras rien à dire, je reconnaîtrai bien le tout petit garçon, le dragueur solitaire qui cachait ses chagrins dans les jardins perdus, qui ne savait jouer qu'aux billes ou à la guerre, qui avait tout donné mais n'avait rien reçu. Si je venais vers toi, je viendrais sans bagage, que t'importe après tout ce qu'il y aurait dedans, tu me reconnaîtrais à lire mon visage, il y a tant et tant de temps que tu m'attends, je te tendrai les mains, tu n'aurais qu'à les prendre, et console les voix qui pleurent dans ma voix, tu m'apprivoiserais les lumières éteintes, je n'aurais rien à dire, tu reconnaîtrais bien la toute petite fille aux cheveux en bataille qui cachait ses chagrins dans les jardins perdus et qui aimait la pluie, le vent et la paille et le frais de la nuit et les jeux défendus. Quand viendra ce jour-là, sans passe et sans bagage, nous partirons ensemble vers un nouveau printemps qui mêlera nos corps, nos mains et nos visages. Il y a tant et tant de temps que l'on s'attend. À quoi bon se redire les rêves de l'enfance? À quoi bon se redire les illusions perdues? Quand viendra ce jour-là, nous partirons ensemble, à jamais retrouvés, à jamais reconnus. Le jour où tu viendras, le jour où tu viendras. Il y a tant et tant de temps que je t'attends.
Les souvenirs que je garde de Tarbes sont durs, très durs.
Sa mère, peu de souvenirs, pas de tendresse ni de complicité.
Le père, j'ai très peur de lui. Il n'est gentil avec moi que lorsque nous sommes tous les deux seuls. Je ne comprends pas bien pourquoi. Je trouve son comportement bizarre. Le but de mon père, me blesser, m'humilier. Cet enfant est stupide. Je me demande ce qu'on en fera plus tard. J'ai de plus en plus peur de mon père. Il le sent, il le sait. Impossible d'en parler à ma mère, je me tais.
Il y a l'histoire de son baigneur, échangé pour 3 carrés de zan avec son frère, et la révélation de la transaction à la famille indignée. Elle met au point sa gâchette secrète pour s'isoler du monde dans sa tête quand on la contrarie trop fort ou qu'on la blesse. Et puis il y a cette histoire de blessure à la poitrine survenue à Tarbes, dont on sait peu de choses et en tout cas pas la vérité. En 1952, Claude Sluis savait bien la brûlure qui marquait alors le corps de sa jeune épouse. Il la présente à un ami chirurgien, plasticien, en 1952 ou 53, et celui-ci l'a reconstruite gratuitement, là, sur le cœur. Il en restera une cicatrice et aujourd'hui encore un grand mystère qui reste à éclaircir. Au chirurgien, elle a dit « Cette chose est terrible parce qu'elle n'a rien d'un accident, rien d'un hasard non plus. » De toute façon, elle aurait dit la vérité qu'il ne l'aurait pas cru. Indisible donc. La blessure était trop profonde, comme une meurtrissure infligée, intentionnellement peut-être. À Claude, son mari, elle parla d'un cataplasme trop chaud. À d'autres, elle dira «
La guerre m'a marqué. »
À ses amis d'alors, elle disait
« Ça, c'est ma brûlure. »
65 ans plus tard, on ne sait toujours pas et on ne saura peut-être jamais.
Un soir, à Tarbes, mon univers bascule dans l'horreur. J'ai 10 ans et demi. Les enfants se taisent parce qu'on refuse de les croire, parce qu'on les soupçonne d'affabuler, parce qu'ils ont honte et qu'ils se sentent coupables. parce qu'ils ont peur, parce qu'ils croient qu'ils sont les seuls au monde avec leur terrible secret. De ces humiliations infligées à l'enfance, de ces hautes turbulences, de ces descentes au fond du fond, j'ai toujours ressurgi. Sûr, il m'a fallu un sacré goût de vivre, une sacrée envie d'être heureuse, une sacrée volonté d'atteindre le plaisir dans les bras d'un homme, pour me sentir purifiée de tout, longtemps après. J'écris cela avec des larmes qui me viennent. C'est quoi ces larmes ?
Je suis la très mystérieuse. Je suis l'amante religieuse, ni belle ni bonne, je n'aime personne, et je passe bonjour. Je suis celle de la nuit, je suis celle de l'amour, et je croque le mari qui rôde à mon alentour. Mais non, mais belle, mais tout est, je suis la douce, si douce, douce. J'ai le cœur tendre et pâte de velours, et pour me prendre au piège de l'amour, il n'y en a qu'un qui sait poser ses mains au creux de mon cou, au creux de mes reins. Pour vous, je suis mystérieuse. La fleur vénéneuse, ni belle ni bonne, qui n'aime personne et qui passe bonjour. Il s'en est fallu d'un rien, j'étais blonde, on est mutin, chacun la gueule qu'il a, moi j'ai la mienne, et voilà. Pourtant si douce, douce, je suis la fidèle, la en cruelle. Quand je vous quitte, je vais cheveux en vange, je vais cueillir la petite fleur des champs, mais pour vous plaire, lorsque revient le soir, sous les lumières, ange du désespoir, je suis la très mystérieuse. La noire, la fleur vénéneuse, ni belle ni bonne, je n'aime personne, et je passe bonjour, et je passe.
À Tarbes, elle rencontre une religieuse, sœur Anne-Marie. Plus tard, celle-ci dira « Je ne peux pas raconter ». Puis, elle reconnaîtra s'être occupée d'une petite fille blessée à la poitrine. Plus jamais dans ses tournées, Barbara n'acceptera de passer par Tarbes. Et puis, dénonciation par un voisin, menace de rafle. On part dans la nuit, en juillet 1942. La famille se disloque. Jeanne à Préaux, Claude avec la sœur d'Esther, Monique et Régine à Chasseneuil-sur-Bonnieure, Jacques et Esther dans un autre village à quelques kilomètres. Pour Monique et son frère, à la ferme, c'est le réveil à l'aube pour le travail à l'étable, faim et peur. Il fait sommeil, il fait froid. Et puis une nouvelle errance. La famille se regroupe à Grenoble et arrive jusqu'à Saint-Marcellin en fin 42. Janvier 43. Installation à Saint-Marcellin dans la maison des Côtets, les valises toujours prêtes. La fille des propriétaires se souvient. Ils parlaient très peu, ces messieurs-dames. Monique, je la revois au jardin. Elle prenait le soleil et elle chantonnait comme ça, toute seule. Elle était élégante, elle était jolie. La maman, on ne la voyait pas beaucoup. Je sais qu'ils avaient peu de choses, pas de vaisselle. Je revois un matelas par terre. Leurs valises étaient toujours faites. Ils étaient prêts à partir. 50 juifs vivent à Saint-Marcellin et n'y seront pas inquiétés. Ils se retrouvent quotidiennement au restaurant Serve, les Serfs avec les autres. Le père trouve du travail à l'imprimerie Cluse. Il aurait des faux papiers et voyage beaucoup sans que l'on sache trop où il va. Un jour, sans doute autour de juin 1943, les parents annoncent à la tenancière qu'ils s'absentent quelque temps et qu'ils lui laissent les enfants. Où sont-ils allés? Mystère, un de plus. Son frère Jean, un jour, va loger chez les Cluses, un peu clandestinement. Pourquoi? D'autres juifs y logent aussi. Le jour où la Gestapo débarque, il n'est pas là. Monique, se souvient une voisine, était de ces adolescentes qui font femme avant l'âge. C'était une Parisienne. Elle s'habillait autrement que nous. Les robes de sa mère. Elle avait une façon de s'habiller, de se tenir, différente, déjà. Elle est beaucoup plus grande que les autres. Son amie Henriette dit d'elle, elle n'essayait pas de séduire qui que ce soit, mais elle avait un charme fou. Elle était séduisante, extrêmement séduisante. Volontairement ou pas, elle faisait des ravages. L'inceste du père dura au moins 4 ans depuis 1942. Donc, pendant toute la durée de ce séjour à Saint-Marcellin, Monique a subi les viols de son père. Le traumatisme s'ancrait en elle, dans un non-dit complet. Alors, en pareil cas, plus tard, on conjure les situations par des pratiques de vie réactionnelles et on sublime artistiquement.
J'ai le souvenir d'une nuit, une nuit de mon enfance, toute pareille à celle-ci, une longue nuit de silence, moi qui ne me souviens jamais d'un pensée qui m'importune. C'est drôle, j'ai gardé le secret de cette longue nuit sans lune. J'ai souvenir d'une nuit, une nuit de mon enfance, toute pareille à celle-ci, une longue nuit de silence. Soudain, je me suis éveillée. Il y avait une présence. Soudain, je me suis éveillée. Dans une demi-somnolence, c'était au dehors. On parlait à voix basse, comme un murmure, comme un sanglot étouffé. Au dehors, j'en étais sûre. J'ai souvenir qu'une nuit, une nuit de mon enfance, toute pareille à celle-ci, froide et lourde de silence, j'allais à demi éveillée, longeant une allée obscure, j'allais à demi éveillée, guidée par l'étrange murmure, il y eut, je me le rappelle, surgissant de l'allée obscure, il y eut un bruissement d'ailes là, tout contre ma figure. C'était au cœur de la nuit, c'était une forêt profonde, c'était là comme cette nuit, un bruit sourd venant d'outre-tombe. Qui es-tu pour me revenir? Quel est donc le mal qui t'enchaîne? Qui es-tu pour me revenir? Et veux-tu que vers toi je vienne? S'il le faut, j'irai encore tant et tant de nuits profondes, sans jamais revoir l'aurore, sans jamais revoir le monde. Pour qu'enfin tu puisses dormir, pour qu'enfin ton cœur se repose, que tu finisses de mourir sous tes paupières déjà closes. J'ai le souvenir d'une nuit, une nuit de mon enfance, toute pareille à celle-ci, froide et lourde de silence.
Quelques 30 ans plus tard, elle chantera Nantes en 1963, Au cœur de la nuit en 1970, Amour incestueuse en 1972, L'aigle noir en 1973. Arrêtons-nous un moment sur cette dernière chanson. Claude Sluis, son mari des années 50, raconte ce souvenir que cet aigle pourrait bien être une réminiscence de celui de Léonard de Vinci. Étrange histoire, au point que Freud lui consacra un ouvrage en 1943, Un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci. Et il se trouve que tout ça a été évoqué devant Barbara à Bruxelles lors d'un dîner dans les années 50. Nous vous invitons à lire ou relire cet intéressant ouvrage, comme tous ceux de Freud. Et qu'est-il dit dans ce livre? Il est question du tableau « Sainte-Anne avec la Vierge et l'Enfant ». Rappelons que Léonard de Vinci naît en 1452 à Vinci. Enfant naturel de Caterina et d'un notaire marié à une épouse stérile, à 5 ans, Léonard de Vinci vit chez son père et y restera jusqu'à ce qu'il devienne apprenti dans un atelier de peintre. Son seul souvenir d'enfance qu'il évoqua justifiait son intérêt pour les vautours. Le voici raconté par lui-même. « Étant encore au berceau, un vautour vint à moi, m'ouvrit la bouche avec sa queue et plusieurs fois me frappa avec cette queue entre les lèvres. » Freud dit « C'est invraisemblable, il ne s'agit pas d'un souvenir mais d'un fantasme construit plus tard et rejeté dans l'enfance, comme en général nos souvenirs d'enfance. » Fantasme de fellation passive, dit Freud, a rapproché de la succion du sein. La mère et son sein sont remplacés par un vautour. Par ailleurs, le vautour est dans la mythologie égyptienne une divinité maternelle. Alors, l'origine du fantasme. Le vautour est fécondé par le vent, vieille histoire racontée partout, en particulier par les curés. C'est bien pratique pour expliquer le mystère de la Vierge enceinte. Et le petit Léonard a dû l'entendre étant enfant. Or, Léonard est né sans père, et l'interprétation freudienne devient « Ma mère m'a écrasé sur la bouche d'innombrables baisers passionnés. » Le fantasme est alors composé du double souvenir d'avoir été allaité et baisé par la mère. Quel rapport avec le tableau évoqué plus haut? Eh bien, prenez une reproduction de ce tableau, retournez-le au bas, considérez alors la forme de la robe verte de la mère. Sans peine, vous devinerez celle d'un vautour, et vous observerez que la queue du vautour affleure la bouche de l'enfant. Quel rapport avec la chanson de Barbara, me direz-vous? Eh bien, écoutez-la bien, justement, en pensant à des gestes sexuels de l'inceste, évoqués et sublimés dans cette forme artistique qu'est la chanson. Et dans une version unique, jamais reprise, que nous allons vous proposer, version enregistrée pour une émission d'Europe numéro 1, le 8 juillet 1970, un mois après la sortie de l'album, elle ajoute un dernier couplet, peut-être trop lourd de sens et que jamais elle ne reprendra. Au matin, je me suis éveillé, l'oiseau m'avait laissé, seul avec mon chagrin.
J'étais endormie quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Lentement, ses ailes déployées, lentement, je le vis tournoyer, se glissant sans un bruissement d'ailes, comme tombé du ciel, l'oiseau vint se poser. Il avait les yeux couleur rubis et des plumes couleur de la nuit. À son front brillant de mille feux, l'oiseau roi couronné portait un diamant bleu. De son bec, il a touché ma joue. Dans ma main, il a glissé son cou. C'est alors que j'allais reconnu, surgissant du passé, il m'était revenu. Dit l'oiseau, où t'y emmène-moi, retournons au pays d'autrefois, comme avant dans mes rêves d'enfant, pour cueillir en tremblant des étoiles, comme avant sur un nuage blanc, comme avant. Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormie. Au matin, je me suis éveillée, l'oiseau m'avait laissée seule avec mon chagrin. Un beau jour, où était-ce une nuit, près d'un lac, je m'étais endormie. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Un beau jour, une nuit, près d'un lac, quand soudain il surgit de nulle part, il surgit l'aigle noir. Un beau jour, une nuit, un beau jour, où était-ce la nuit? Un beau jour, une nuit, un beau jour.
Je sais pas, on va dire, tiens, l'aigle noir, pardonnez-moi, c'est la première qui me vient à l'esprit. Mais elle est complètement inscrite dans une époque. Tout le monde connaît cette chanson, tout le monde vibre plus ou moins à ça. Enfin, je sais pas, mais pour beaucoup de gens, ça a signifié, moi, il y a des chansons que je préfère de vous, mais ça a signifié quelque chose, ça s'est complètement inscrit dans le temps.
Et vous demandez ce que ça représentait pour moi?
Oui,
moi,
est-ce qu'on s'en rend compte surtout?
Non, on s'en rend pas compte, parce qu'en fait, l'aigle noir, c'était un rêve, et vraiment, et la chanson est bien au-delà, au-dessous du rêve, et bon, que j'ai essayé de transcrire, de dire, et c'est vrai que non, on s'en rend pas compte. Au moment où j'écris la chanson, c'est vrai que cette chanson, elle m'a marqué, et encore, c'est une chanson que, justement, j'ai jamais voulu faire des télés avec cette chanson, enfin, j'ai laissé faire son chemin d'oiseau.
Un jeune professeur était même tombé amoureux d'elle. Et totalement fou, il était prêt à dénoncer toute la famille. Heureusement que le principal était un homme très bien et très intelligent. Il lui a vite fait avoir une place plus importante ailleurs, et ainsi il a pu s'en aller. Chez Marcel Bossan, la fille du quincaillier qui avait un piano, Monique était reçue et en jouait un peu, peut-être le premier piano. À 14 ans, elle y a chanté pour un goûter la complainte du petit éléphant et un Ave Maria. Avait-elle appris à jouer ? Le 13 novembre 1943, devant la fromagerie de Saint-Marcellin, Barbara se souvient.
Nous serons plusieurs enfants à assister impuissants à l'arrestation d'un jeune maquisard descendu de la montagne. Il sera frappé sauvagement, emmené, et nous l'apprendrons peu après, fusillé par les miliciens.
1996, 53 ans après, elle chante.
Il me revient en mémoire, il me revient une histoire, il me revient des images, un village, mon village. Il me revient en mémoire, je sais pas comme un songe cette histoire. Et voilà qu'au loin s'avance mon enfance, c'était, je crois, un dimanche, c'était, je crois, en novembre, qu'importe, mais je revois l'usine, ça dessine. Surgit du livre d'images, un ciel gris d'acier, une angoisse, et des pas lourds qui se traînent, et des ombres qui s'avancent. C'était, j'en suis sûr, un dimanche, c'était, j'en suis sûr, en novembre, et se détache une image, un visage. Ton visage, où allais-tu sur cette route, comme une armée en déroute, et tout devient transparence, et tu deviens une absence, tout me revient en mémoire, le ciel et novembre et l'histoire. Et les pas qui se rapprochent et s'avancent en cadence. Toi, où es-tu, je te cherche. Où es-tu, je te cherche. Toi, mon passé, ma mémoire. Toi, ressorti de l'histoire, qui était, j'en suis sûr, un dimanche. En novembre. Ton visage, toi, sur cette route figée, et les ombres qui se rapprochent, et les ombres qui te frappent et t'emportent. Il me revient des images, ce village, ton visage, toi seul sur cette route. Et les pas qui se rapprochent, en cadence,
Il y a des choses que vous avez inhibées, par exemple, que vous vous êtes dites, je ne rencontre pas cette chose dans ma vie. J'ai un souvenir, je parle d'une chanson précise dans cet album, où vous doutez de laquelle, où vous évoquez quelque chose de la guerre, quoi. Donc vous étiez une petite
fille. Enfin, j'avais 12 ans. Ouais. Mais je me dis pas, hein. je fuis pas le souvenir des choses. C'est-à-dire que le souvenir est inscrit en moi, et puis la chanson est sortie beaucoup plus tard, quoi. Hein, c'est ça. Mais je l'ai pas inhibé. C'est la preuve. J'ai eu du mal. J'ai mis longtemps à l'écrire, on peut dire. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'on peut dire. Il y a des choses qui sont plus lentes, parce que quand il y a des vérités, quelquefois. Pour rester exact dans le fait, c'est difficile, quoi.
Est-ce que c'était obsédant, par exemple?
Ça m'a pas obsédé. C'est resté là, quoi. C'est une image qui est restée là. C'est cet homme qui disparaît comme ça entre les autres. Ça m'a pas obsédé. Mais c'est resté dans moi, quoi. Je l'ai pas oublié, voilà, disons.
Mmh. Je dis ça parce que j'ai lu votre CV. Et puis donc, il y a une date de naissance. Et puis 10 ans après, il y a 1940. D'hôtel en hôtel, de rue en rue, de ville en ville. Je me souviens plus.
Une chanson que vous me faites là. D'hôtel en hôtel et de ville en ville.
Comptez pas sur moi pour vous faire une chanson, mais.
Pourquoi pas? Tout le monde peut faire une chanson dans sa vie.
Je vais essayer. Mais je me suis dit, tiens, c'est une façon tellement précise.
Parce que j'étais une petite fille qui voyageait. Du fait qu'on fuyait, qu'on se cachait. Mais moi, à cette époque-là, à la limite, ça m'amusait. D'être une enfant de la guerre à partir du moment où j'ai été épargnée, alors que beaucoup ne l'ont pas été. Fuir d'hôtel en hôtel, c'est quand même une aventure, même avec la peur, se cacher, quelque part, ça a été, pas tous les jours, mais quelque part, ça a été aussi très excitant dans la tête d'un enfant qui voit pas forcément le danger, qui comprend, mais qui, bon, beaucoup d'autres n'ont pas eu ce privilège-là de fuir et de. Ils n'ont même pas eu le temps de fuir.
Mon frère et moi allons au collège situé sur la place du marché. Le collège m'ennuie, les études m'ennuient. Les jours de marché, pendant la récréation, je joue. Je traîne entre le marchand de guimauve et le kiosque à musique. Puis l'heure venue, je reprends le chemin de la maison bordée de grands mûriers chargés de belles mûres sauvages parfumées. Je reviens les cueillir et en fais provision dans un pot à lait de fer blanc.
Août 1944.
Depuis quelque temps, ma main droite devient malhabile. C'est d'abord une douleur, puis une légère perte de sensibilité. Dans la paume, un noyau dur grossit. Je suis opéré une première fois en urgence. 6 autres opérations suivront. D'abord la paume sur toute sa longueur, puis d'autres interventions, et enfin, quand le mal aura atteint l'auriculaire, une 7e sera la bonne.
La nature du mal, mystère. Personne ne semble savoir encore aujourd'hui, et pourtant, toujours est-il que sa mère lui dit
« Le docteur Roussel a sauvé ta main, mais pour ce qui est du piano, mon clavier imaginaire éclate dans ma tête. Je ne serai que chanteuse alors ?»« Oui, répond ma mère, chanteuse, c'est promis. » Dès que tu en auras l'âge, nous te ferons prendre des cours de chant. Cette main, ce doigt atrophié dont les tendons ont été sectionnés, feront l'objet d'une rééducation que j'entreprendrai seule. Je veux récupérer mon doigt. Je veux jouer du piano. Pendant longtemps, je ne jouerai qu'avec 4 doigts. Plus tard, c'est ce qui décidera de la place du piano sur scène. Les graves côté public, contre toute habitude, est logique.
Août 1944, la libération de Paris.
Jamais la fin d'été n'avait paru si belle. Les vignes de l'année auront de beaux raisins. On voit se rassembler déjà les hirondelles. Mais il faut se quitter, pourtant l'on s'aimait bien. Quel joli temps se dire au revoir. Quel joli soir pour jouer ses 20 ans sur la fumée des cigarettes. L'amour s'en va, mon cœur s'arrête. Quel joli temps
te dire au revoir. Quel joli soir pour jouer ce 20 ans. Les fleurs portent déjà les couleurs de septembre, et l'on entend de loin s'annoncer les bateaux. Beau temps pour un chagrin que ce temps couleur d'ambre. Je reste sur le quai, mon amour. À bientôt. Quel joli temps, mon amour, au revoir. Quel joli temps pour jouer ses 20 ans sur la fumée des cigarettes. L'amour nous reviendra peut-être, peut-être un soir au détour d'un printemps. Oh, quel joli temps, le temps de se revoir. Jamais les fleurs de mai n'auront paru si belles. Les vignes de l'année auront des beaux raisins. Quand tu me reviendras avec les hirondelles, car tu me reviendras, mon amour, à demain.
C'était comme une immense fête. J'allais revoir ma granny. Nous allions habiter enfin une vraie maison. J'allais pouvoir être juive sans peur, librement. Nous restons encore quelque temps à Saint-Marcellin, où nous voyons arriver les Américains.
Elle y reviendra deux fois à Saint-Marcellin. En 1947, elle accompagne Jean, son frère, qui fréquente dans le coin, et elle assistera, belle jeune femme, à la fête de la Rosière. En 1968, un détour en tournée, elle fait arrêter la Mercedes devant la maison Cottet, inchangée. Mais ça, nous en reparlerons plus loin. 5 ans de guerre. Elle se savait faire partie des pestiférés, poursuivis, et pourtant elle écrit
« Nous n'avons jamais porté l'étoile jaune. Aucun de nous n'a été déporté. Mes peurs d'enfant, est-ce vraiment à la guerre que je dois les imputer ?»
Octobre 1945, le retour à Paris.
Nous quittons Saint-Marcellin en 1945. Je suis triste, j'éprouve une drôle de sensation. J'ai beau savoir que c'est pour retrouver Paris, pour moi c'est partir vers l'inconnu. Je ne me souviens de rien, ni comment nous avons quitté Saint-Marcellin, ni comment nous sommes arrivés à Paris. Granny nous attend dans son petit appartement de la rue Marcadet. Nous nous étreignons en pleurant de joie. Elle ne pose aucune question. Elle a préparé un strudel et des kirkels. Je lui montre ma cicatrice et, à nouveau, les notes de musique éclatent et se cognent dans ma tête. Granny aussi les entend. Elle pose les mains sur mon visage et, du bout de ses doigts, recueille le désespoir qui glisse lentement de mes yeux. Granny, je serai chanteuse.
Après quelques mois, la famille va loger au Vésinet, dans la pension de famille Les Trois Marronniers. Très vite, elle va chercher un professeur de chant et tomber dans une rue proche sur une plaque, Madame Thomas Duséquet, professeur de chant.
Bonjour madame, je veux chanter, comment faire ?
Elle va commencer tout de suite, deux fois par semaine auprès de ce professeur à qui elle s'attachera beaucoup.
Je suis déçue lorsqu'elle m'explique qu'il va falloir d'abord travailler techniquement ma voix. Pendant un an, je ne fais que des exercices vocaux. J'apprends à respirer, à amplifier, à élargir, à tonifier, à poser ma voix. Sachant que je ne dispose pas d'un piano et que je ne peux vocaliser à la pension, Madame Dussek m'apprend à travailler mentalement. Je travaille partout, le jour en marchant, la nuit dans mon sommeil. Je viens d'acquérir une pratique qui me servira toute ma vie. J'ai appris à m'écouter, à m'intérioriser, à m'isoler avec une grande liberté.
En 1946, Madame Dussequet la présente à un professeur du conservatoire, Maître Paulet. Elle auditionne et chante sa première mélodie. Il la recevra une fois par mois dans la perspective d'une carrière de chanteuse classique, alors que Monique sait qu'elle veut faire du musical. 1946 toujours, les parents ont enfin trouvé un appartement à Paris dans le 20e, pas loin de la porte de Montreuil, au 50 rue Vitruve, le dernier appartement avant l'éclatement de la famille. Elle a déjà arrêté sa scolarité au Vésinet avec l'accord de ses parents en échange d'une promesse de recherche de travail. Août 1946, première vacances à la mer à Trégastel. Et là,
un après-midi, je fugue pour fuir mon père. Je n'en peux plus. Je marche. Je décide d'aller à la gendarmerie. Le gendarme m'écoute attentivement. J'ai même l'impression qu'il me croit. Mais il m'explique que je ne suis pas majeure et que je dois retourner chez mes parents. C'est mon père qui vient me rechercher. Il laisse entendre que je suis une malade, une affabulatrice. Il me ramène à la maison. Je le hais. Je suis punie pendant plusieurs jours, mais je sens que ma démarche l'a frappé.
La mort de sa grand-mère Granny. Monique a un pressentiment de ce décès qui est confirmé quelques heures plus tard.
Ma mère doit rentrer d'urgence. Je supplie mon père de me laisser rejoindre ma mère. Il refuse. Je menace, je hurle. Cette violence lui fait peur. Je pars. Pendant 2 ans, je la voyais surgir de partout, refusant sa mort.
C'est trop tard pour verser des larmes. Maintenant, ils ne sont plus là. Trop tard, retenez vos larmes. Trop tard, ils ne les verront pas. Car c'est du temps de leur vivant qu'il faut aimer ce que l'on aime. Car c'est du temps de leur vivant qu'il faut donner à ce qu'on aime. Il ils sont couchés dessous la terre, dans leurs maisons froides et nues, où n'entrera plus la lumière, où plus rien ne pénètre plus. Que feront-ils de tant de fleurs? Maintenant, ils ne sont plus là. Que feront-ils de tant de fleurs? De tant de fleurs à la fois. Alliez-vous leur porter des roses? Et du temps qu'ils étaient encore là. Alliez-vous leur porter des roses? Ils auraient préféré, je crois, que vous sachiez dire je t'aime, que vous leur disiez plus souvent. Ils auraient voulu qu'on les aime du temps de leur vivant. Les voilà comme des statues dans les froids jardins du silence, où les oiseaux ne chantent plus, où plus rien n'a plus d'importance. Plus jamais ne verront la mer, plus jamais le soir qui se penche. Les grandes forêts en hiver, l'automne rousse dans les branches. Nous n'avons que des remords, mais ils ne le sauront jamais. Ils n'entendent plus, c'est trop tard.